Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, vendredi 5 avril avec vous pendant 2h pour commenter l'actualité à partir de 11h, pour parler médias avec vous, avec Rémi Pernelet, bonjour,
bonjour
avec Gilles Gansman,
bonjour.
Vous êtes de mauvaise humeur.
Si, bonjour.
Bonjour.
Je m'installais.
C'est un bonjour très, très sombre. Vous êtes de bonne humeur.
Je suis de bonne humeur, toujours pour
Allez, on va recevoir pour les auditeurs, ça veut dire quoi? Pas pour les autres. On s'est disputé avant.
Mais non.
Jérém Star, la vérité, toute la vérité. Jérém Star, star de la télé-réalité, star de Snapchat, star des réseaux sociaux, chroniqueur chez Thierry Ardisson. Il sera avec nous. Son livre est sorti hier. Il vient s'expliquer, parler. Ça fait plus d'un an et demi qu'on ne l'a pas entendu. Donc, on sera avec lui dans un instant. Les livres avec Gérard Collard, évidemment, à partir de 11h moins le quart. Et puis, entre 11h et midi, on va parler du cafouillage de la réforme des retraites. On va parler également du grand débat. On en dira aussi quelques mots. Est-ce que vous avez... du débat des européennes hier soir sur France 2. Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous avez compris quelque chose? 0826 300 300. Ce sera avec vous. Et on commence avec les audiences de Rémi et cette audience du grand débat. J'avais parié, souvenez-vous, moins de 2 millions.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi...
Vous voulez commencer par
L'audience du grand débat quand même,
écoutez,
ça nous intéresse.
Alors écoutez, on va le mettre dans la catégorie gadin.
Ah.
Ben oui, parce que seulement 1 879 000 téléspectateurs, donc vous aviez bien prévu, 9% de part de marché pour l'émission politique spéciale débat des élections européennes. C'est 300 000 de moins qu'envoyé spécial la semaine dernière. Mais surtout, si on compare au premier débat à 5 candidats sur TF1 pour l'élection présidentielle de 2017, il y avait eu 9 773 000 téléspectateurs. Le débat 11 sur BFM TV et CNews avait réuni 6 300 000 téléspectateurs. Donc ça n'a rien à voir. Évidemment, le sujet est beaucoup moins attirant, beaucoup plus repoussant pour les téléspectateurs. Mais enfin,
c'est déjà pas mal.
Alors c'est ça. 000, hein. Et puis alors à noter aussi, pour compenser ce que je viens de dire, que l'audience a quand même été assez stable à minuit 4 à la fin de l'émission. La deuxième partie a réuni encore 1 million, pratiquement 300 000 téléspectateurs. Donc certes, les gens ne sont pas forcément tous venus, ont été un peu repoussés par sans doute l'aridité du thème. En revanche, ils sont restés en grand nombre jusqu'à la fin. Voilà, j'ai trouvé, on va en reparler d'ailleurs, que c'était quand même assez rythmé. Il y avait de bonnes idées. Le vote, moi j'ai trouvé ça.
On va en reparler.
Je vais vous mettre dans le zapping un petit extrait pour en parler. Et moi j'ai un tweet de Valérie Expert qui à 21h20 disait 1,2 million.
J'ai affiné effectivement.
En instantané c'était peut-être vrai, mais au total les chiffres, vous voyez, on recoupe.
Vous regarderez à 21h20 combien il y avait de téléspectateurs, c'est ce que je voulais dire. Le carton hier soir, c'était pour qui?
Passons maintenant au carton. Le carton hier pour TF1, 5 082 000 téléspectateurs, 22% de part de marché pour Section de Recherche, la série française avec Xavier Deluc et Franck Sémonin. Très bon score, 300 000 de plus que la semaine dernière. TF1 était nettement en tête des chaînes généralistes hier, devant M6, 2 431 000 téléspectateurs, 10,5% de part de marché pour la série américaine 9-1-1. Ça a un peu baissé, 400 000 de moins que la semaine dernière, mais M6 c'est donc toujours en deuxième position. Nos pronostics étaient bons, on a dit TF1, M6.
Voilà,
ça marche bien.
Pas mal. Gadin, il y a un autre Gadin M6. Que vous aviez dans votre rubrique Gadin ou c'est...
Non, on a
c'est
plutôt des
politique.
Surprises. Ensuite, c'est notamment pour C8 hier, 1 308 000 téléspectateurs et 5,7% de part de marché. Pour le Prime, TPMP fête ses 9 ans, c'est quand même un carton pour Cyril Hanouna. Il a multiplié les happenings dans l'émission.
Ah, c'était dingue.
800 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le top des meilleures parodies présentées par Benjamin Castaldi. Alors, l'émission a duré jusqu'à 1h-5. Alors évidemment,
il y avait
plus que 700
derrière,
000.
Non,
jusqu'à 1h-5, c'était Touche pas à mon poste, les 9 ans. Donc, il n'y avait plus que 700 000 téléspectateurs pour la fin. Balance ton poste, c'est déroulé entre 1h et 2h du matin, donc 191 000 téléspectateurs. Oui, c'était un peu tard,
Tard pour Balance ton poste. Il y a eu plein de monde. Il y a eu Drucker, il y a eu Jean-Claude Van Damme,
énorme.
Mia Fry.
Dans Touche pas à mon poste, pour les 9 ans,
il y avait un défilé incroyable.
Et puis beaucoup de happening. Bon score aussi à signaler quand même pour les autres chaînes de la TNT. W9, 1 134 000 téléspectateurs pour le match de foot féminin France-Japon. C'est un très bon score. Et puis aussi 1 4 000 téléspectateurs pour TMC avec Iron Man. C'est la France qui a gagné 3-1, Gilles. Vous voyez.
Ouais, bon, donc
je peux vous demander qui a marqué.
Les japonaises.
Alors, qu'avez-vous regardé hier soir? 0826 300 300. Michael nous dit, j'ai regardé les vacances préférées des Français.
Ah, c'était sur TFX, ça.
Ah, d'accord.
C'était présenté par comment elle s'appelle, j'ai un trou, une ancienne Miss France.
Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, ben voilà, non. Là, alors, Kate nous dit, la 2, mais à un moment donné, j'ai décroché que des redites, rien de nouveau, la cacophonie en plus, bref, nul. Un petit peu ce que j'ai ressenti aussi.
Enfin, c'est sur Sister, très... en fait.
Sister, oui, pardon, j'ai dit Sister.
Sur le débat, donc, Kate a trouvé que c'était un peu la cacophonie et que c'était pas très compréhensible. C'était un peu ardu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du débat, Rémi, qui avait été très studieux, qui l'avait regardé.
Oui, je l'ai regardé pour raisons professionnelles, mais aussi parce que finalement, je me suis fait prendre. Je trouvais que c'était très rythmé. Alors, Thomas Soto a mené quand même
les débats
d'une main de fer. Il a menacé à un moment donné. Vous savez, les micros sont encore ouverts, mais on peut les couper, ce serait dommage. Donc ça, j'ai jamais entendu ça encore dans un débat politique. Et puis alors, il y a une bonne innovation, c'est l'histoire dont je parlais, les votes. Ils ont fait donc voter les différents candidats, les 12 candidats, avec des tablettes électroniques pour ou contre l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. Enfin, il y avait plusieurs éléments de vote comme ça, et c'était assez concret. Ça donnait l'occasion de petits échanges de 30-40 secondes. Ouais. Non, ça s'est assez bien tenu.
Alors, moi, j'ai trouvé ça ultra moderne, en effet, la séquence. C'est vrai qu'on avait les opinions de tout le monde en un instant, que ça fonctionnait très bien. On devrait faire un quiz avec les hommes politiques. Et en effet, Thomas Soto, il a été très bon.
Alors,
vous voulez que je fasse écouter un son avant le son? Parce que j'ai un son.
Mais je peux vous. Juste vous dire. Alors, Sylvie nous dit, seul Asselineau sort du lot. Moi, j'ai regardé votre patron, nous dit Milly, effectivement. Didier Maistre, qui était en Facebook Live avec Maxime Nicole et Étienne Chouard. Il y a quoi encore? J'ai regardé sur la 5, les galaxies, l'histoire des galaxies, un peu compliquée, nous dit
la
Xavier.
La cartographie, oui.
Voilà, c'était un peu...
C'était le 30 secondes d'hier,
Alors, j'aurais pu le mettre en gadin, je vais vous dire tout de suite.
Sur la cartographie, c'était la nouvelle question.
Il y avait 463 000 téléspectateurs,
c'est pas un carton.
La nouvelle question. Oui, je voulais, puisqu'on était sur ce thème-là...
Du débat,
il y a eu aussi quelque chose d'amusant en début d'émission, où ils ont amené chacun un objet qui était le reflet de leur pensée, ou de vouloir... faire passer un message. Écoutez cet extrait.
Eh bien, j'apportais un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen.
Alors, c'est une baguette de pain.
Ah, très bien.
Tout le monde connaît. Alors, c'est un beau symbole de la France, mais c'est devenu un symbole des méfaits de l'Union européenne.
Et j'ai apporté l'avion Airbus, qui est le symbole pour moi de l'Europe qui a marché. C'était l'Europe des coopérations à quelques pays, pas à 28.
Alors, je vous ai rapporté ma passoire. Ma passoire parce que c'est pour moi aujourd'hui le symbole, non pas de l'Europe.
Il y avait tous les candidats.
Avec les menottes, la baguette.
Baguette, c'était Florian Philippot. L'Airbus, c'était Nicolas Dupont-Aignan. Et puis la passoire, c'était Jordan Bardella. Il y a Jean-Christophe Lagarde qui a amené un morceau du mur de Berlin.
Et vous m'avez envoyé un SMS. Je partage vos doutes, Rémi.
Ben oui, parce qu'en fait, ils sont deux à avoir amené des morceaux du mur de Berlin. Il y en a plus que deux dans circulation. On est bien d'accord. Non, mais moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est que Jean-Christophe Lagarde l'a montré, puis il l'a remis dans sa poche aussitôt, alors que Raphaël Glucksmann, lui, l'a continué à le montrer. Bon.
Oui, il y a eu
je
un
pense
grand
que
plan.
Ce sont de vrais.
Voilà, on se demandait si c'était des vrais morceaux du mur de Berlin ou si c'était
c'est
juste
possible.
Pour le symbole.
C'est possible. Caroline est en ligne avec nous. Bonjour Caroline, qu'est-ce que vous avez regardé hier soir?
Moi, j'ai regardé 911.
Oui, la nouvelle série d'M6.
Oui, la nouvelle série d'M6, c'est un petit peu de déjà-vu avec les Américains, mais c'est plus pour se détendre parce que on a des journées longues et puis bon, les débats, ça tourne, il y en a beaucoup, on parle, mais voilà, donc toujours reparler de la même chose.
Mais la vraie question, c'est est-ce que vous allez aller voter aux européennes, en fait?
Bien sûr.
Oui, vous allez aller voter quand même.
Je vote à tout, moi. Je vote à tout, sauf que des fois, je vote blanc. On avait dit en France qu'on allait accorder le vote blanc, le comptabiliser, on ne le comptabilise pas, mais il y a des fois, je vote blanc. Mais moi, je fais mon acte citoyen parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont mortes pour que nous, les autres femmes, puissions voter, donc je vote.
Ouais. Très bien. Et vous n'avez pas besoin des débats pour vous faire votre opinion?
Tout à fait.
Les débats télévisés, ça vous apporte rien réellement?
En fait, c'est pas ça. C'est que depuis qu'il y a les gilets jaunes, on voit ça et on parle que de ça. Les infos, on a l'impression qu'ils n'ont pas de matière. Alors ils ressassent. Ils retournent, ils s'engueulent sur les plateaux. Et puis moi j'ai raison. Et puis finalement, les Français aujourd'hui, ils voyaient pas beaucoup de choses avancer. Ouais. Pas beaucoup de choses avancées. Donc, passer deux heures devant une chaîne pour entendre les mêmes choses et entendre les mêmes réponses et rien à voir, ben je préfère regarder quelque chose qui me détend. Vous voyez, voilà.
Et donc, pour revenir à la série, vous dites, voilà, c'est sympa, ça divertit.
Ça divertit, ça change. Voilà, après, c'est un peu là le même genre. Hein, les Américains, il y a toujours du sensationnel. Mais bon, voilà, c'est moi, je vois quelque chose qui me détend.
Ça vous a détendu.
Ils sont beaucoup plus sexy que les politiques. Hein,
merci, Caroline. Gérard nous dit, moi, j'ai abandonné rapidement le débat. C'était une cacophonie. Moi, je pose une question un peu iconoclaste, c'est-à-dire est-ce que c'est pas les journalistes qui se font plaisir en organisant des débats comme cela, qui regardent... Alors, il y avait 1,8 million de personnes, certes, devant, mais est-ce... Enfin, j'ai du mal à imaginer, franchement, des gens qui restent du début à la fin sur ce type de débat.
Je sais, écoutez, il y a quand même les gens qui sont arrivés, ils sont restés jusqu'au bout, malgré tout. Donc, il y a quand même. Bon, après, c'est quand même sur le service public, et puis après tout, s'il y a chaîne qui doit organiser
non,
ça.
Non, mais je ne critique pas du tout le service public. C'est d'une manière générale, toutes les chaînes vont le faire. Les chaînes d'infos ont annoncé des grands débats.
Je trouve qu'ils ont essayé de le rendre le plus lisible possible.
Ça avait beaucoup de tenue
par rapport à d'autres, franchement.
Sur le fond, c'est quand même. Je trouvais ça assez assommant, personnellement. Mais bon. Voilà, je ne suis pas la seule, visiblement. On se retrouve tout de suite avec le zapping de Gilles. Pardon.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, je ne suis pas gâtée ce matin parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, donc je ne vous passerai pas des sons de « touche pas à mon poste » qu'avait... je vous ai sélectionné Miafra, je vous ai sélectionné des petites choses. On a des petits soucis techniques, donc je vais vous faire deux sons du jour. Alors le premier, on va quand même sourire. Vous savez que le Brexit s'approche de plus en plus, enfin il s'éloigne aussi.
On ne sait pas, on ne sait pas bien ce qui va se passer.
Donc vraiment, on n'a plus rien à comprendre. Et Sandrine Saroche, vous savez, qui est dans l'émission de Zemmour et Nolo sur Paris Première, s'en est évidemment amusée sur l'air de Laetitia de Serge Gainsbourg.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que vu le dérèglement climatique, nos amis anglais risquent fort de voir la fin de mai avant fin avril.
Teresa, je crois qu'ils sont devenus fous. Teresa, tu sais les roses bifons s'en fout. Tire-toi à l'anglaise, fais-leur un doigt d'honneur. Ma Thérèse, c'est des Moser. Teresa, ils se croient vraiment les plus forts. Teresa, balance ton rebord.
Voilà, Sandrine Saroche qui est
toujours
très drôle. Et c'est drôle qu'elle ait choisi.
Toujours très bien écrit.
Et oui, puisque dans les paroles, il y a un moment à l'anglaise.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle chante avec l'accent de Jane Birkin. Ouais.
Pour finir, écoutez bien ce son, car si vous êtes abonné à Free, vous risquez de ne plus l'entendre.
Donc c'est le générique de BFM.
Oui, c'est le petit jingle de BFM. Les chaînes du groupe Altice BFM, BFM Business, RMC Découverte, ont décidé de couper leur signal avec Free. Alors on est dans une histoire de gros sous, comme avec TF1, puisqu'en effet, Altice demande que ces chaînes soient rémunérées. Et c'est donc pour 6,4 millions d'abonnés Free, qui pèsent vraiment dans le paysage audiovisuel, qui devraient voir disparaître ces chaînes. Alors ça, c'est...
On peut se rappeler qu'il y avait eu un bras de fer déjà entre TF1 justement et Free et Orange parce que aujourd'hui les box réclament être rémunérés.
Oui, alors, pour juste être clair, en fait, quand Free a fait son accord avec TF1, ils n'ont pas rémunéré la chaîne. Ils ont rémunéré, l'accord s'est fait sur ce qu'on appelle les services de replay, de voir à 7 jours, de voir les programmes
avant. Donc
là, il
n'y
a pas de service. C'est-à-dire que BFM ne peut pas vendre vraiment son replay ou d'autres services. Donc là, Free a décidé d'engager vraiment le bras de fer, mais il y a une énorme différence, c'est que Free reprend le signal de la TNT. Quand vous regardez en fait sur votre box, le signal que vous avez, c'est le signal de la TNT. Or, Altice ne peut pas couper le signal de la TNT. Donc ce matin...
Ben non, parce qu'il y a une loi qui s'appelle le must carry.
Exactement.
Qui impose à tous les opérateurs de transporter les chaînes de la TNT. Ouais.
Donc pour l'instant, ils ont un gros souci avec ça, Altice, parce qu'ils ne peuvent pas couper le signal. Alors actuellement, BFM est toujours diffusé sur les box. Il y a une chaîne qui est BFM Business, dont ils ont coupé l'image, mais ils diffusent le son parce que c'est un son radio et donc ils ont le droit de diffuser la radio. Donc ils sont rentrés dans ce combat. Ce qui est intéressant à voir, il y a deux choses qui sont intéressantes à voir, c'est qu'en ce moment, il y a un panneau vraiment toutes les à chaque coupure pub en disant on a coupé le signal à Free.
Oui, sauf que la réalité n'est pas celle-là.
La réalité n'est pas celle-là et je pense qu'ils le font pour juste pouvoir aller en procès et dire on leur a coupé le signal. Ils n'exécutent pas cette coupure de signal.
Donc au final concrètement pour les abonnés Free,
BFM TV,
on voit toujours
RMC
BFM
Découverte
TV.
Et RMC Story sont des chaînes de
qui
FMT,
sont absolument
donc ils sont obligés de les diffuser.
Donc pour l'instant Free risque de gagner un peu. Son bras de fer, on va voir, mais après c'est intéressant de voir ce que ça peut changer pour LCI et ITL d'avoir 6 millions de personnes
Vous dites que pour l'instant ils les reçoivent, donc ça ne changera rien.
Pour l'instant, ça ne changera rien. Même demain, ce sera pareil.
Demain, ça ne changera rien. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérém Star qui reprend la parole après une interruption du son et de l'image pendant plusieurs mois. On en parle avec lui et son livre « La vérité, toute la vérité » qui paraît chez Hugo Images.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Jérém Star. Bonjour.
Bonjour.
Oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ajustez. Jérémy Gisson, c'est votre nom, mais on vous connaît mieux sous le nom de Jérém Star, star des réseaux sociaux, star de la télé-réalité, chroniqueur chez Thierry Ardisson. Vous avez disparu des écrans, plus de son, plus d'image depuis pratiquement, plus d'un an, 1 an et 3 mois très exactement. Vous avez été victime d'une attaque de cyberharcèlement suite à une affaire. Un petit peu glauque, on peut le dire.
Oui,
on vous a accusé d'être l'entremetteur, en gros, d'être l'entremetteur pour un homme âgé de relations entre des jeunes hommes et cet homme-là. Et suite à ça, tout s'est un petit peu écroulé dans votre monde alors que vous étiez au sommet de votre notoriété. Donc vous avez décidé de publier un livre, La vérité, toute la vérité, chez Hugo Images. Racontez-nous déjà un petit peu comment vous avez vécu cette année.
Très difficilement.
Ouais. Ce que vous racontez dans le livre. Hein.
Ouais, c'était très compliqué parce que du jour au lendemain, j'étais en pleine gloire, entre guillemets. Enfin, tout allait bien et puis m'est tombée une polémique dégueulasse sur la tronche pour des histoires de scoop volé, de télé-réalité, enfin des inepties, des choses vraiment pas graves. Qui en plus ne dépendait pas de moi et donc un cyberagresseur effectivement a commencé à balancer une vidéo de moi qui date d'il y a plus de 10 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui du revenge porn quand on balance des vidéos sexuelles ça volées sur internet.
Vous étiez nu en fait sur
cette vidéo. Ouais. Voilà. Et puis, par la suite, ça s'est amplifié puisque mon cyberagresseur a continué en balançant des horreurs que j'étais complice de, comment on pourrait dire, de détournement de mineurs.
Oui, c'est ça. Oui, d'un pédophile qui aurait abusé de mineurs.
Effectivement, ce mot pédophile a été employé alors que j'imagine le cyberagresseur n'en connaissait pas le mot parce que c'est quand même un mot très très grave. C'est un mot qui a été balancé alors qu'il n'y a jamais rien eu et surtout
par rapport à vous,
par rapport
aussi à l'autre personne.
Non, surtout c'est un mot qui a été balancé et qui ne me concernait pas, qui a été balancé concernant une personne de mon entourage.
Mais avec qui vous étiez presque avec 24 heures sur 24 quand on voit vos vidéos.
Non, avec qui j'étais.
Babybel, vous rigoliez quand il y avait il contactait des jeunes, vous montriez des photos, vous disiez oh là là, Babybel va encore séduire. Si à un moment, moi, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable.
Oui, oui,
vous avez été léger à ce moment-là quand même.
Alors déjà, je ne le voyais pas 24 heures sur 24, je le voyais 5-6 fois par an. Effectivement, il m'est arrivé de faire des blagues et de rigoler de certaines choses parce que. Oui, il a déjà dragouillé des hétéros de manière assez lourde de 20 ans devant moi, effectivement, et je m'en amusais dans des vidéos. En revanche, il n'y a jamais eu de pédophilie, il n'y a jamais eu de viol. C'est parti un petit peu dans du tout et n'importe quoi, comme à l'image finalement de ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire balance n'importe quoi sur n'importe qui de connu. Et cette affaire, du coup, qui est partie de Twitter et qui m'a été collée sur le dos, a porté mon nom parce que c'était beaucoup plus facile pour les médias et la presse d'utiliser mon nom.
Vous étiez la cible de ce cyberharceleur.
Son objectif, c'était quoi?
Oui, c'est ça.
C'était de devenir connu?
Évidemment, mais il y a plusieurs cyberagressants, mais leur objectif était effectivement de m'imiter, de m'égaler. Il y a eu une mauvaise interprétation de mon message, c'était extrêmement trash. Ce sont ni plus ni moins que des gens effectivement qui étaient avides de notoriété, qui ont voulu se faire remarquer en balançant n'importe quoi et ensuite en s'excusant. On va parler justement.
Oui, c'est ça. Il y a eu des plaintes qui ont été retirées. Alors il y a toujours des enquêtes qui sont en cours, mais les plaintes ont été retirées, en tout cas vous concernant.
Oui, alors me concernant, il y a eu qu'une seule plainte d'un jeune homme que je n'ai jamais vu de ma vie, qui m'avait accusé dans cette plainte de complicité de viol. Donc, chose absolument ignoble quand j'ai découvert ça dans les médias. Il a ensuite retiré sa plainte en avouant que c'était un paparazzi qui m'avait demandé de faire ça et qui avait vendu cette plainte à un magazine, en fait, pour me nuire. Il a reconnu ensuite ne jamais m'avoir vu et de toute façon, dans mon passeport, à ce moment-là, il y avait des tampons comme quoi j'étais en voyage. Ouais. Bien entendu, les médias n'en ont jamais parlé de ce passeport.
Donc, c'est pour ça que vous publiez ce livre. On va y revenir dans un instant. Jérôme Star est avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio avec Jérôme Star, La vérité, toute la vérité qui paraît chez Hugo Images. Donc dans ce livre, vous racontez toute l'affaire qui vous a valu donc d'être mis renvoyé de chez Thierry Ardisson. Enfin, il a décidé de ne plus vous faire participer à son émission.
C8 a décidé.
C'est C8. C'est pas
Thierry, c'est
battu. Vous allez y retourner ou pas ?
J'ai enregistré l'émission hier. Voilà, pour parler de mon livre, Thierry encore une fois m'a apporté son soutien et s'est battu jusqu'au bout avec
donc
moi.
Celle de samedi. De dimanche.
Ce qui passe dimanche. Elle passera dimanche. Et puis, effectivement, c'est C8 et les annonceurs pour des enjeux économiques. Hein, vous savez, en télé, la présomption d'innocence et l'aspect humain, ça n'existe pas. M'a écarté de l'antenne et a eu peur au moment, effectivement, de cette polémique, alors qu'il n'y avait absolument rien.
Et vous le comprenez pas qui vous a écarté à l'époque?
Si j'étais C8 et qu'effectivement, j'avais des enjeux économiques, peut-être que oui, je me serais posé la question, mais. Vous savez, je me mets à ma place et je sais que je suis innocent. Je n'ai jamais été convoqué par la justice. Oui, oui. La présomption d'innocence, peu importe en fait l'endroit, doit être respectée. Ça n'a pas été le cas. On m'a jeté comme une merde en télé. Et le plus grave, c'est que en fait, le fait d'être renvoyé de C8 aux yeux du public me condamnait.
Oui, c'était.
Et oui.
C'était. Est-ce qu'il y a une plainte contre vous aujourd'hui?
Alors, il y a eu, comme je vous le disais, une plainte pour complicité de viol qui a été retirée puisque le jeune homme a affirmé qu'il avait menti à la demande d'un paparazzi et qu'il ne m'avait jamais rencontré. Aujourd'hui, il affirme avoir retiré cette plainte. Moi, je ne suis poursuivi par personne. Pour l'instant, je n'ai jamais été reçu par la justice.
Si on compare votre cas au cas, par exemple, des ministres en exercice, quand il y a une plainte, un dépôt de plainte, ils se retirent du gouvernement par précaution. Donc, c'est un peu. La jurisprudence qu'a appliquée C8, alors vous l'acceptez pour les ministres, mais pas pour vous.
Je sais pas trop, je sais pas trop quel est niveau ministre. En tout cas, il y a eu deux discours. C'est ça aussi qui était un petit peu difficile chez C8. Il y a eu ce discours où la chaîne ne voulait pas et où Thierry se battait. Et un coup, on me disait en fait que je revenais. C'est aussi le comportement de C8 qui un coup me programmait à l'émission pour venir reprendre la parole, pour finalement m'interdire, pour finalement me dire reviens pas. Et en fait, ça, j'ai été de la chair à buzz pendant des semaines.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année pour vous?
Alors,
juste
une question. Oui. Est-ce que Hanouna, qui a déclaré qu'en fait, c'est vous qui aviez refusé une offre des C8 d'aller dans l'émission de Valérie Benaïm, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Alors, effectivement, j'ai appris par voie de presse que j'étais convié dans l'émission de Valérie Benaïm, mais aucune demande ne m'a été faite de manière officielle. Et effectivement, à ce moment-là, je sortais d'une période très compliquée. J'attendais de retrouver Ardisson. Aujourd'hui, c'est ma priorité, c'est Ardisson. Donc, j'ai décliné l'offre, mais je n'ai jamais
dit. C8, vous avez bien fait une offre à ce moment-là?
Non, Cyril Hanouna, ce qui est très différent de C8, puisque comme je l'explique dans mon livre, C8 m'a clairement dit, Cyril Hanouna s'engage sur des choses sur lesquelles il n'a aucune prise. C'est ce que m'a dit C8 dans le bureau. Donc, c'est pas parce qu'il annonce dans un média que on me propose cette émission, enfin lui, que C8 en fait m'aurait autorisé à intégrer cette émission. En tout cas, j'ai refusé, mais contrairement à ce qu'il a dit, je n'ai jamais dit que c'était pas assez bien pour moi ou je ne sais quoi. Non, j'ai juste dit que j'avais d'autres projets. Donc les interprétations après qu'on en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours facile de me jeter un truc, un pavé comme ça en pleine tête. Enfin, voilà.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Parce que vous aviez un grand nombre de followers, des fans, des Jérôme Starlet, puis un business.
Je les ai toujours et vous savez.
Vous avez fait quoi pendant cette année?
L'amour.
Alors, justement, je me suis beaucoup mis en retrait parce que je me suis dit qu'il fallait que je réserve la primeur de mes déclarations à la justice et non pas aux réseaux sociaux et aux médias. Du coup, je me suis mis en retraite. J'ai travaillé sur ce livre, voilà, avec ma directrice de la communication qui a suivi toute cette affaire, qui m'a énormément soutenue. Et voilà, j'ai préparé petit à petit mon retour. J'ai réfléchi à ce dont j'avais envie et ce dont je n'avais plus envie. J'ai entrepris un véritable virage.
Alors dites-nous, c'est quoi le virage et de quoi vous avez envie et plus envie ?
J'ai entrepris un virage en arrêtant catégoriquement de traiter de télé-réalité, en arrêtant de donner la parole à des gens qui se clashent, en arrêtant de traiter d'infos putassières et de balancer des articles, en arrêtant finalement de participer à ce système.
Oui. Ce qui a fait votre succès.
Et ce qui a fait aussi ma descente.
Oui.
Puisque j'ai reçu.
C'est ce que nous dit une auditrice. En même temps, quand on joue dans la provo, on s'expose à ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il mérite ce qui lui arrive, mais à tendre la corde, elle finit par se casser. C'est celui qui choquera le plus de nos jours qui réussit à faire du buzz, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Donc aujourd'hui, mais c'est quoi ? Vous allez aller sur France Culture, participer à des débats sur Marcel Proust.
Non, je
caricature un peu, mais qu'est-ce que comment vous allez orienter votre vie ?
Alors, c'est étrange cette question, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que depuis que je suis plus chez Ardisson, que je suis plus en télé, la vie est terminée, je ne fais plus rien.
Non, mais je fais plein de trucs. Non, mais je parle par rapport à Snapchat, par rapport à vos.
Tout ce que vous faisiez. C'était sur Snapchat, hein ?
Pardon ?
Vous n'avez pas perdu beaucoup d'abonnés sur Snapchat ?
En fait, c'est-à-dire que j'ai plus d'abonnés qu'avant, puisque cette polémique, justement, a déclenché un véritable soutien de la part de ma communauté qui n'y a jamais cru. Et aujourd'hui, avec mon récit, tout le monde est en train de comprendre que c'était du vent. Du coup, j'ai arrêté, comme je le disais, tout ce qui était télé-réalité, parce que je ne peux pas continuer à plébisciter la vulgarité, le trash, l'évolution toxique de la télé et des réseaux, et continuer, en fait, tout ça. Je m'engage aujourd'hui concrètement contre le harcèlement numérique et le harcèlement scolaire. J'ai fait mon mea culpa, ce que j'ai fait par le passé.
Vous avez fait un site qui a été ouvert hier, c'est ça ?
Voilà, ce que j'ai fait par le passé, effectivement, c'était pas joli joli. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre d'autres choses à ma communauté. J'ai ouvert cette plateforme harcèlement.online pour que les jeunes puissent venir s'exprimer de manière anonyme sur ce qu'ils vivent, pour que je puisse les orienter vers les bons contacts. Et puis, il y aura plein de reportages, plein d'interviews de célébrités aussi qui ont vécu du harcèlement. Je continue à alimenter ma chaîne YouTube, mes réseaux.
Mais avec quoi ?
Avec des vidéos.
Oui, mais sur quoi ?
Plein de choses, moi,
regarde. Sur la matière.
Sur plein de choses, des interviews, alors plus de télé-réalité, mais de célébrités, des reportages sur le harcèlement. Je fais également des vidéos humoristiques. J'ai une entreprise de production, donc je crée du contenu, en fait. Et puis, voilà,
mais
je travaille avec des marques.
Plus du contenu trash et plus de la télé-réalité.
Exactement.
Et donc, votre plateforme sur le harcèlement, quel est son objectif, en fait ? Vous doublonnez avec toutes les plateformes officielles de gouvernement, comment vous voyez votre rôle ?
Alors justement, je me suis rendu compte pendant les dédicaces de mes précédents livres que les jeunes n'osaient pas parler, n'en parlaient pas. Et à part à moi, ils n'en parlaient pas à grand monde. J'étais un petit peu leur grand frère, puisque j'ai souvent évoqué le harcèlement scolaire à travers mes précédents livres. Et je me suis dit, mais ces jeunes ne parlent pas. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a des sites gouvernementaux. Les sites gouvernementaux, sans vouloir être dévalorisants, mais sont quand même parfois un petit peu brouillons. Ils ont du mal à comprendre, à les trouver. Donc je me suis dit, je vais lancer ma propre plateforme pour ces millions d'abonnés qui me suivent, pour les orienter de manière très claire et précise sur les contacts officiels et puis pour aussi les épauler.
Comment vous l'alimentez ? Puis comment est-ce que économiquement ça coûte de l'argent de faire une plateforme ? Comment vous... Il y a de la pub ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, il n'y a aucune pub. Elle est autofinancée, voilà. Personne ne finance à part moi.
C'est vous qui financez ?
Oui, c'est moi qui finance et elle est alimentée par moi-même. J'ai une rédactrice aussi qui m'aide à faire de la modération, à écrire quelques articles sur l'actualité du harcèlement, mais c'est moi qui m'en occupe, qui tourne des reportages, je vais l'alimenter régulièrement. Mais effectivement, voilà, j'ai quand même le soutien de l'État, puisque j'ai été reçue... par le ministère de l'Éducation.
Ouais. Vous avez demandé un rendez-vous au président de la République aussi ?
Voilà,
pas de réponse.
Pas pour l'instant. En revanche, j'ai adressé une lettre ouverte au pouvoir public. Et j'ai Laetitia Avia qui m'a répondu et avec qui nous allons faire une réunion de travail très prochainement.
Juste pour dire, dans votre livre, vous racontez beaucoup de choses. Vous dites que votre chiffre d'affaires a baissé de près de 80%. Vous donnez des conseils aux jeunes. Les fake news, c'est quoi ? Enfin, il y a beaucoup de choses dans votre livre. Et puis, vous leur dites surtout, quittez Twitter. Il faut quitter Twitter, j'en suis persuadée. J'invite chacune de mes Jérém Starlet à supprimer son compte. Vous leur dites quand même, avant, postez le hashtag non au harcèlement numérique, je soutiens Jérém Star. Donc, vous posez en fait, on est une sorte de grand frère et vous avez envie de les aider à comprendre un peu mieux les méfaits ou les travers d'Internet, c'est ça ?
Oui, c'est une communauté qui a grandi avec moi, qui m'a suivi à un moment donné parce que je balançais des scoops sur la télé-réalité. Aujourd'hui, je leur ai montré que c'était terminé et qu'il fallait aussi évoluer. Je grandis en même temps qu'eux, j'apprends de mes erreurs et j'ai envie de les guider vers quelque chose de beaucoup plus positif et de leur pointer du doigt les dangers des réseaux sociaux. Oui, il faut quitter Twitter, évidemment.
C'est fait, vous êtes transformé complètement.
Vous êtes en rédemption et vous crachez dans la soupe.
Valérie nous dit, voilà, ça vous dit dans le livre, vous dites, voilà, on va me dire, vous avez gagné. Et Valérie nous dit, il a fallu qu'il lui arrive ça pour qu'il change, sinon il serait resté le même.
Mais c'est normal que tout le monde vous pose la question. J'ai vu ce passage.
Mais c'est très fatigant l'histoire du crash dans la soupe. Quand vous allez au restaurant, c'est l'image que je prends tout le temps, et que vous prenez de la soupe, c'est pas parce que vous la payez ou que vous la buvez que vous pouvez pas dire qu'elle est indigeste et la renvoyer en cuisine. Justement, si je crache entre guillemets dans la soupe, c'est parce que je suis un enfant des réseaux sociaux, que je les ai compris, que j'en ai fait tout mon business et qu'aujourd'hui je suis apte à pointer les dangers. Donc oui, si vous voulez, je crache dans la soupe, je continue à les utiliser d'une manière différente, peut-être, c'est certain, j'en pointe les dangers, j'essaye de les utiliser d'une manière plus saine.
Voilà. Donc voilà. Vous serez à Bobino demain pour une conférence de presse, c'est déjà plein, c'est déjà complet.
Oui, c'est dingue, 900 places vendues. J'ai mis
vous
en scène.
Vous faites payer une conférence de presse.
Non, c'est un spectacle. Hein,
c'est un spectacle.
C'est un spectacle où j'ai mis en scène un interrogatoire policier qui n'a jamais eu lieu parce que la justice n'a jamais voulu me recevoir même en tant que témoin. Donc voilà, il y a une petite mise en scène.
Le prix du livre est compris dans le prix de la place.
Il y a le livre inclus avec la place et ensuite une dédicace.
Et le livre vaut 12,95 €, donc voilà.
C'est ça.
Donc il sera donné demain à Bobino. Jérôme Starr, La vérité, toute la vérité, c'est chez Hugo et Images, si vous voulez en savoir plus. Et donc on va vous retrouver chez Thierry Ardisson bientôt.
Non.
Non.
C'est toujours C8.
Seulement
c'est toujours C8.
Qui
bon, à suivre. Merci d'être passé par Sud Radio. 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors ce soir, émission spéciale sur France 5, c'est la Maison France 5 animée par Stéphane Thébault, j'allais dire. Stéphane Thébault a donné carte blanche à 5 animateurs de la chaîne. C'est l'occasion de les découvrir d'une autre manière. Donc à quoi faut-il s'attendre ce soir ? Stéphane Thébault, vous avez 30 secondes pour nous convaincre de regarder France 5 ce soir à 20h50.
30 secondes, c'est largement suffisant pour vous inviter à venir nous rejoindre ce soir sur France 5 et découvrir 5 présentateurs et présentatrices de la chaîne dans un cadre un petit peu différent de celui de leurs émissions. Ils vont se confier à nous dire quels sont leurs goûts en matière de décoration, en matière d'architecture, les endroits dans lesquels ils se sentent bien, et puis surtout, dans le cadre de la carte blanche, ils vont me faire découvrir également des endroits qu'ils affectionnent particulièrement dans la capitale, des expositions, des hôtels, de la décoration bien sûr, et des parties prises tout à fait intéressantes. C'est ce soir sur France 5.
Et ce week-end, qu'est-ce qu'on regarde?
Ce soir, il y a Koh-Lanta aussi, et puis il y a Kalas Kennedy Onassis, dont on a parlé hier,
absolument.
Un documentaire intéressant.
Sur France 3,
exactement.
Oui,
et puis demain, évidemment, The Voice, face à Starmania.
Face aux
40 ans de Starmania. Et puis il y a Commissaire Magellan aussi sur France 3.
Moi, je dis Koh-Lanta et The Voice.
Oui, bah oui.
Bah, évidemment.
Vous jouez avec nous, Jérôme Starr?
Moi, je dis peut-être Starmania.
Oh non.
Ma mère écoutait ça et tout, j'adorais.
C'est The Voice qui lance les chaos, on va voir.
Ah, The Voice, oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est dur. Eh ben, on fera les comptes lundi. Non, moi, je serai pas là lundi. Je prends une petite semaine de vacances. Vous serez avec Trina McDean qui va me remplacer. Voilà, mais je suis encore là pendant une heure. Oui, c'est ça. Encore là pendant une heure pour commenter l'actualité. À tout de suite. Et tout de suite, c'est les livres avec Gérard Collard.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Comme tous les vendredis, Gérard Collard est là. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est La Griffe Noire. Il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a aussi les livres, et vous avez lu très bon polar.
Alors attendez, parce que ça c'est un événement, c'est Cédric Cyr qui vient de faire paraître Vindictas aux éditions Métropolis.
Ouais.
Alors avant il s'appelait Cyr Cédric, et il écrivait des romans qui étaient plutôt héroïque fantasy avec un peu
fantasy,
de mystère, des choses.
Moi c'était pas
mon truc, il écrivait bien, je l'avais dit, ça ressemblait, il y avait un peu du Stephen King dedans, mais c'était pas mon... Voilà.
Ouais.
Et puis là il a muté, il a fait un polar, et là il a vraiment trouvé sa voie, parce que c'est vraiment une révélation. C'est aussi important pour moi que Gilberti, que Coping, des gens comme ça, c'est toute la nouvelle génération. Alors c'est quand même incroyable, il arrive une nouvelle génération de Polar 2, enfin ce que j'appelle de Polar 2, qui donne un coup de vieux, enfin c'est très méchant, à des gens que j'adore, mais qui... Alors, c'est en plein dans notre société, c'est fort, c'est violent, mais c'est hyper efficace. Alors là, on est dans une cité, les gens n'ont pas beaucoup de fric, c'est des jeunes. Hein. Et puis ils ont un plan. Ils se sont rendus compte qu'il y a un reseller qui va recevoir qui a un bijou absolument qui vaut une fortune et qu'il y a quelqu'un qui va lui acheter, qui vont avoir des liquides. Et donc ils se disent, on est à 4, on va le braquer, il va pas se plaindre n'importe comment, c'est de l'argent noir. Le problème, c'est qu'en même temps que devant la bijouterie, il y a deux flics qui sont bloqués dans une voiture et qui regardent ce qui se passe parce qu'ils ont un autre. Ils regardent le reseller, mais pas pour la même chose. Les gosses vont arriver, ça va être une catastrophe. Il y en a un des gamins qui va être blessé, il y a une poursuite et il y a une jeune fille qui fait partie de la bande qui conduit et elle va à une toute berzingue pour essayer de se sauver de la poursuite de flics. Elle va renverser et tuer une petite fille.
Ouais.
Et donc,
ce qui devait être un braquage huilé, en fait, dégénère.
Je vais pas vous dire parce qu'en plus, il y a quelque chose qui vient se mettre là-dessus qui fait encore un sens de l'intrigue. Mais ce que je trouve extraordinaire. Alors, c'est un vrai film. Hein. C'est un peu ce qui caractérise cette génération. C'est-à-dire que c'est fait comme... comme si c'était une série. C'est-à-dire que vous lisez une série. Et alors, la qualité des personnages, c'est ce que je dis, c'est que chaque personnage, en quelque sorte, est une sorte de roman à lui tout seul. Psychologiquement, c'est incroyable. Et en plus, ça se passe à notre époque, dans des gens qu'on pourrait croiser. C'est pas larmoyant, c'est pas le pot. En fait, ils sont complètement paumés tous là-dedans. Ça sont les flics. Tous les flics qui enquêtent là-dedans sont paumés. Ils sont tous à la limite du. Ils sont borderline. Les gosses, ils sont complètement. Hein, et puis, c'est une description de la corruption. C'est une pure merveille, les enfants. Ne passez pas à côté. En plus, c'est pas glauque pour glauque comme on pourrait le faire. Ouais. C'est vraiment, vous êtes dedans, vous lâchez pas et jusqu'à la fin vous voulez savoir, vous savez, il y a un personnage là-dedans qui intervient, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est
ça vous a captivé,
vous savez, je sais pas si c'est le truc du libraire, hein, je veux dire que des bêtises, mais il y a des fois, enfin, on sent, c'est instinctif, on se dit là on tient quelque chose, un type
on sent qu'il y a quelque chose
et que ce type est exceptionnel, que ça va être un des grands et que là il a vraiment il a éclos, hein,
une nouvelle voie, c'est-à-dire qu'il a changé.
C'est
fou. Il a eu plusieurs prix, dont le prix Polar du Festival de Cognac. C'est vrai que c'était plus fantastique
Plus, c'était autre chose. Et là, il change complètement de genre, de style. Enfin, moi, je trouve. Et alors, c'est un coup de poing. Hein, ça y va. Et j'adore. On est vraiment dans l'esprit des séries qu'on voit sur Netflix et autres, avec cette espèce de jeunesse qui. C'est un peu, on va le dire, hein, je vais faire plein d'ennemis au niveau du cinéma, mais en fait Netflix est en train de, les séries qu'ils produisent sont en train de bousculer tout ce qui était un peu plan-plan du film, c'est comme Subura sur Netflix.
Donc c'est aux éditions Métropolis, Cédric Cyr, Vindicta, c'est donc le coup de cœur de la semaine de Gérard Collard, c'est un vrai coup de cœur.
Ah ouais, c'est énorme.
Alors moi j'ai un truc qui est beaucoup plus, alors c'est plus du feel good, comme on dit, c'est Liane Moriarty, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle avait écrit Big Little Lies, on parlait de série, et là elle vient de publier un livre qui s'appelle À la recherche d'Alice Love, c'est chez Albin Michel. Et alors c'est une sorte de conte de fées un peu cauchemar, c'est une femme la quarantaine, elle tombe sur la tête, elle se réveille et elle ne reconnaît plus ses enfants, et elle retombe, en fait elle se retrouve à l'adolescence. Et elle pense que à l'adolescence, elle est complètement perdue. En fait, l'auteur, d'après ce que j'ai compris, s'est inspiré d'un fait divers en Grande-Bretagne où une femme perdu connaissance et n'a plus reconnu ses enfants. Et là, c'est vrai que assez stressant. Et en même temps, son mari, ils sont en instance de divorce, mais elle s'en souvient pas, donc elle comprend pas pourquoi son mari est désagréable avec elle. En tout cas, elle a le don de tisser des liens entre les personnages, de raconter une histoire. Moi, j'ai trouvé ce livre vraiment formidable. Si vous voulez passer un bon moment, puis relisez ces livres à elle. Liane Moriarty, ça s'écrit M-O-R-I-A-R-T-Y, ça marche bien.
Elle est un peu victime, il faut arrêter de dire avec mépris feel good, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui disent « Ah, c'est feel good, c'est pour les filles, c'est pour les ados », mais c'est pas du tout ça.
J'ai dit feel good, c'est vrai que c'est pas forcément... C'est des raconteuses d'histoire, et elle vous prend vraiment par la main, et elle a une manière de raconter... les relations entre les êtres humains qui est vraiment très très bien fait. Donc ça s'appelle À la recherche d'Alice Love et c'est chez Albin Michel.
Ah, c'est l'antithèse de Vindicta, ouais, hein, dont oui, on vient de vous parler. Oui. C'est Jane Austen. Ouais. Alors moi j'ai trois passions, ouais, c'est Stendhal, Proust et Jane Austen.
Oui, bon,
voilà, c'est pas très original. Mais là, je ne connaissais pas ce livre. En fait, c'est son neveu qui raconte Jane Austen, parce qu'on a très très peu de
les
choses sur cette femme.
Les souvenirs de Jane Austen, portrait d'une héroïne.
Et c'est
donc je vais vous dire, c'est pas chiant, c'est pas trop littéraire.
Pas du tout, non, pas du tout. Et puis il vous raconte cette femme qui est d'une douceur incroyable, qui est pas du tout... Alors elle serait pas du tout dans notre époque, hein. C'est le genre... Il y a des anecdotes incroyables, c'est par exemple, elle est tellement gentille, sa mère, ils sont dans leur maison, il y a qu'un canapé, elle souffre, elle est malade, elle souffre le martyr, et bah pour que sa mère s'allonge sur le canapé, elle va se mettre trois chaises l'une à côté, voilà, et s'allonger pour que la mère puisse profiter. Et alors elle parle des gens c'est des gens éternels parce que c'est des gens qui nous ressemblent et elle est toujours alors par exemple son père était on appelle ça un pasteur il tenait des alors voyez si vous connaissez les romans de Jane Austen hein, c'est les fleurs le petit village anglais tous les cancans les gens et là elle c'est sa vie et après elle va aller à Bath qui est une ville très aristocratique et tout elle y sera jamais à l'aise elle sera toujours dans ce milieu et puis il nous raconte comment elle écrivait Elle écrivait sur un coin de la table du salon, elle n'avait pas de bureau. Et puis, elle raconte aussi l'importance de cette femme, par exemple, pour des gens comme Virginia Woolf. Allez-y, vous avez l'impression de lire un roman de Jane Austen aussi. Hein. C'est vraiment, c'est comme la couverture, si vous voyez.
C'est en douceur,
très sophistiquée. C'est de la dentelle c'est comme la dentelle, souvent ça a l'air très simple et c'est très compliqué, très long à faire. Allez-y, alors ça a été une découverte, ça.
Ouais. Moi, je suis dans le feel good en ce moment. Je ne l'ai pas lu encore, mais c'est l'auteur du Diable s'habille en Prada. Vous avez eu des échos. Lorraine Weisberger, L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, c'est son nouveau livre. Je l'ai reçu ce matin, je vous le dis comme ça. Donc, j'ai très envie de le lire et je voulais vous faire partager parce que c'est vrai que le Diable s'habille en Prada, on l'a tous dévoré. Ouais, on a envie d'un peu de légèreté. Et là, celui-là a l'air d'être assez prometteur. Ça vient de paraître chez Fleuve Édition. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois que le livre est à peu près à l'image de cette très jolie couverture.
Oui, c'est sympa,
jaune,
la couverture.
Voilà.
Ça, c'est pour vous, parce que je sais que vous aimez bien la gastronomie.
Oui, Bria Savarin, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
Et c'est génial. Ouais. En fait, il explique qu'avant, les gens mangeaient en se goinfrant et tout. Et lui, il commence à leur expliquer qu'en fait, on mange avec gourmandise. C'est comme un art, ça, les saveurs et tout. Et puis, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de choses très sympas. C'est très petit. Hein, En plus, je trouve que c'est un joli cadeau quand on va chez quelqu'un.
Ouais.
Bon, c'est assez original. Bon, ça peut être pris genre, c'est pas bon ce que tu fais, mais c'est vraiment
très sympa. C'est vraiment ce qui a été fondateur de ce qu'est la gastronomie. C'est lui qui a théorisé ce qu'était un bon repas. Inspirateur de grands écrivains. Très bonne idée. Folio Sagesse. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es.
Et c'est plein de petites anecdotes très sympas.
Ouais, à lire, sans faute. Qu'est-ce qu'on lit encore?
Alors, il y a les sorties, on va les faire vite. Le Sonia Delgazon, qui était un classique.
Hein, Boréal, un thriller inoubliable, prix des lecteurs 2018.
Elle, c'est vraiment... Ça a été une des... Ouais. Elle, c'est une des grandes révélations. Alors, elle, on peut la mettre au niveau de Cédric Cyr, parce qu'elle a aussi révolutionné le polar par la force, justement. C'est une rentre-dedans. Et ce livre, à moi, ça m'avait surpris. C'était incroyable. On ne va pas vous refaire le résumé, mais allez-y. C'est pas cher et vous allez être complètement surpris. Il faut tout lire, hein, d'elle. Ces histoires sont très spéciales, très, très fortes, très surprenantes, avec un suspense d'enfer et puis toujours avec beaucoup d'humanité parce que tous les personnages, c'est ça que génial dans cette génération, c'est qu'il y a à la fois le suspense et puis des analyses psychologiques et sociales vraiment très, 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 très bien faites.
Très bien faites. Sonja Delzong, si vous n'avez rien lu d'elle, allez-y parce que c'est des polars vraiment qui vous prennent et dont
Absolument.
Vous vous souvenez. Ça, c'est la marque d'un bon polar, comme on dit.
Encore un petit truc.
Allez-y.
C'est pareil. Là, on avait défendu ce livre il y a déjà quelques années. Anna Hope, c'est vraiment pour moi une des grandes, grandes romancières anglaises.
Ouais.
Hein, c'est vraiment ça se passe au 19e siècle. On est dans un village du Yorkshire. Alors, le Yorkshire, c'est une contrée très pauvre, très industrielle. C'est là qu'est née la révolution industrielle. Et il y a les grandes filatures où les femmes sont exploitées, mais vraiment. Et un jour, une jeune femme, elle en a marre, elle craque. et elle casse le métier à tisser, ce qui est inconcevable. Pour avoir fait ça, elle est mise dans un hôpital psychiatrique. Vous allez retrouver dans un hôpital psychiatrique. Elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un autre être, un homme. Vous allez découvrir pourquoi il est là. Ils vont s'enfuir. Et c'est aussi la naissance des théories comme le jeunisme, qui est à la base des théories de Hitler. C'est un magnifique roman, psychologiquement, merveilleusement bien fait. Et puis, ça montre les dessous de la révolution industrielle qui était absolument terrible pour les femmes, pour les hommes et pour les femmes surtout, parce qu'elles étaient massacrées physiquement et psychologiquement. C'est écrit, enfin, la traduction est absolument merveilleuse. Il faut tout lire d'elle parce que c'est vraiment tous des romans en finesse, quoi.
Anna Hope, donc La Salle de Bal, c'est en folio, ça coûte pas cher, donc allez-y. Vraiment, c'est de la qualité, vous passerez vraiment des très bons moments. Il y a un polar dont je voulais vous parler, il s'appelle Je maudis le jour, c'est chez Plon, Anna, Véronique, Elbaz. C'est très noir, c'est très sombre. Trois personnages, un flic qui est plutôt séducteur, solitaire. Il y a un ancien légionnaire qui est devenu SDF, et puis une libraire qui est passionnée de polar. Et puis ces trois personnages, je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment rentrer dans l'histoire, ces trois personnages vont se rencontrer, ils sont assez torturés, c'est très sombre, un peu comme la couverture qui est, je l'ai pas là, mais qui est, et c'est vraiment elle est assez douée, Anna Véronique Elbaz, pour sonder ce qu'il y a de plus sombre au cœur de nos âmes. Donc c'est, la fille elle est un petit peu barrée, elle est à la fois séductrice mais elle provoque et elle tue. C'est, si vous aimez vraiment les âmes sombres et les polars sombres, je vous recommande.
C'est une manipulatrice, quoi.
Pardon ?
C'est une manipulatrice.
Voilà, Je maudis le jour, Anna Véronique Elbaz, c'est chez Plon. Je vous signale la sortie d'America, l'Amérique, comme vous ne l'avez jamais lu, donc c'est la revue éditée par Eric Fotorino, avec Zadig aussi.
Oui, Zadig Fotorino, il vient de c'est un type, j'adore Fotorino parce qu'il est discret et il fait des choses vraiment de très 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 grande qualité.
Avec du sens, parce qu'il les fait avec beaucoup de sincérité. Et là, je vous le montre parce qu'il y a un texte inédit de Philippe Roth, et Philippe Roth, c'est
votre idole.
Voilà, c'est un de mes auteurs préférés.
Très très vrai, c'est que maintenant, on n'a pas le temps pour s'exprimer, et tous ces articles sont longs et développent les choses avec subtilité.
Avec subtilité. Ben voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses. On est pas mal. Et ben merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine avec vous. Et nous, on se retrouve dans un instant.